IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios
sur 98 FM.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio, soyez les bienvenus dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, je vous propose un voyage. La destination nous est complètement inconnue, pour nous autres, simples gens, mais certaines ou certains plus avertis ou mieux informés que nous peuvent nous aider à suivre leurs traces, à parcourir un itinéraire que peu de gens connaissent et que très peu souhaitent emprunter. On repousse toujours ce voyage à plus tard. D'ailleurs, c'est un voyage où il n'y a qu'un aller, il n'y a pas de retour. Il ne s'agit pas évidemment de n'importe quel voyage. Vous ne pourrez pas le réserver, ni en agence, ni sur Internet pour vos prochaines vacances. Mais c'est un voyage que vous allez faire, que nous avons toutes et tous à faire un jour ou l'autre. Puisque je peux vous le dire, il s'agit du grand voyage. On ne peut pas s'y aventurer comme ça tout seul. Il nous faut un guide et nous avons la chance d'en avoir une avec nous ce soir. Mon invitée est historienne de l'art et elle travaille depuis de très nombreuses années sur la symbolique de l'art médiéval. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont un roman il y a 2 ans, pour lequel nous avons eu le bonheur de l'inviter. C'était « Les enfants de Notre-Dame » qui nous faisait vivre dans le monde secret des relieurs et enlumineurs dans le quartier latin au Moyen-Âge. Avec quelques degrés de plus dans l'initiation, elle nous propose cette année un récit sur ce grand voyage. Vous allez tout de suite comprendre, il est intitulé « La chambre de l'âme » aux éditions Salvator. Bonsoir Paul Amblard.
Bonsoir.
Je ne sais pas si je me trompe, mais je me demande si ce nouveau livre « La chambre de l'âme » n'est pas un livre très particulier et très important pour vous.
Oui, à plusieurs titres. D'abord, il raconte, c'est vrai, un voyage, vous l'avez bien dit, il n'y a pas de retour. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce voyage, puisqu'il s'agit de ce qui se passe après la mort, eh bien la vie continue. Et ça, c'est la très bonne nouvelle de l'histoire. Et il me tient à cœur parce que il allie, ce livre allie en fait un manuscrit du Moyen-Âge que je voulais absolument faire découvrir parce que c'est un livre complètement extraordinaire qui raconte chaque étape qui nous attend après notre mort. Alors ça peut paraître difficile, morbide, ben non, c'est un vrai voyage comme vous l'avez dit, c'est une vraie aventure qui continue. Alors on parle du repos des bienheureux, mais là on se repose pas tellement dans ce voyage, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à découvrir. Et puis ce livre, il allie aussi, je voulais le relier à notre époque, et j'ai raconté une histoire qui m'est très personnelle et que j'ai vécue avec ma sœur, que j'ai accompagnée dans un moment très douloureux puisqu'elle était très malade, elle avait un cancer du sein et j'ai accompagné pendant toutes ces journées à l'hôpital et finalement il y a eu une rencontre et quelque chose d'extrêmement positif que je voulais aussi retraduire.
Oui, on va en parler là dans un instant. Dans le livre, dans ce livre, La chambre de l'âme, il y a quelque chose un peu double. C'est à la fois très réaliste. On se retrouve à l'hôpital Curie à Paris. Alors, évidemment, il y a des malades atteints du cancer. On a les odeurs d'eau de Javel, les bruits des appareils d'examen, les tiges de perfusion qui roulent dans les couloirs. On a les conversations des infirmières, les avis de médecins et tout ce qui fait la vie d'un hôpital. Mais ce récit, vous l'intitulez récit et non pas roman, ce récit n'est absolument pas une chronique de la vie d'un service hospitalier, ni même le récit d'une femme à qui on a ôté un sein. Cette femme, elle s'appelle Marion, elle est encore jeune et elle a une sœur, vous dites que c'est la vôtre, peut-être, il doit y avoir des tas de sœurs comme ça qui se baladent avec quelques maladies, et avec elle, Rose, c'est ainsi que se nomme la narratrice. Rose et Marion vont vivre donc quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer entre elles ?
Alors déjà, ce sont deux sœurs qui se sont éloignées l'une de l'autre. C'est un récit, donc c'est vraiment un récit très autobiographique, mais aussi fictionnel. Et donc, mais très inspiré de ce que j'ai vécu. Les deux sœurs se connaissent moins. Alors quand Rose, qui est historienne de l'art, arrive dans cet hôpital Curie, d'abord effectivement elle est happée par ce lieu, elle a l'impression de changer d'espace, c'est-à-dire elle quitte le monde des vivants et elle se retrouve dans un espace totalement inconnu, avec des odeurs effectivement. Et ce qui va se passer, elle est très démunie devant sa sœur et devant sa souffrance et elle ne sait pas comment l'aider. Elle voit bien que les infirmières arrivent avec leur antalgique pour la soulager, mais elle, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors, elle est pleine de ses lectures, de sagesse, etc. Et puis, elle se rend compte que tout ça ne lui sert à rien devant la souffrance de sa sœur. Et elle a idée, avec une question de Marion, qui se révolte, qui est en colère et qui dit « mais moi je ne suis pas croyante, je ne sais pas ce qui m'arrivera quand je vais mourir, c'est la fin de tout, je suis encore jeune ». Elle se rebelle et Rose lui propose la lecture d'un manuscrit du Moyen-Âge qui raconte justement ce qui se passe quand on va mourir. Alors, en fait, effectivement, on dépasse vraiment le cadre hospitalier dans la mesure où les deux sœurs vont converser et où la chambre d'hôpital va devenir vraiment secondaire pour toutes deux dans ce voyage extraordinaire.
Il faut préciser, il y a de temps en temps des interruptions de réseau sur la ligne, que vous êtes au téléphone et que on de temps en temps il y a des petites absences. Donc non mais ça va, j'espère que ça va pas se reproduire trop souvent. Alors vous, Paul Amblard, vous travaillez depuis, je le disais, de nombreuses années sur des vitraux, sur des sculptures de cathédrales, sur en particulier aussi sur la grande tapisserie de l'Apocalypse d'Angers que vous avez détaillée dans différents livres. Et puis, vous connaissez parfaitement le monde de l'enluminure. Vous savez, ces petites miniatures qui figurent en tête de chapitre dans ces manuscrits du Moyen-Âge. Et dans ce pèlerinage de l'âme du moine Guillaume de Digulville, vous allez trouver une matière extraordinaire. C'est ce voyage-là que vous faites avec Marion et avec la conduite de frère Guillaume. Comment vous êtes tombé sur ce livre et que représente-t-il pour vous ? Je crois qu'il a une importance assez majeure.
Écoutez, je pense que le hasard est assez étonnant parce qu'il a mis sur ma route un manuscrit exceptionnel qui date du XIVe siècle. Il date d'une époque où on pensait que c'était la fin du monde. Et effectivement, il y avait la guerre, la guerre de 100 ans, hein, donc qui n'avait pas de fin. Il y avait la peste. Il faut vous dire qu'en 1348, il y a un homme sur trois qui va tomber en France. Donc il y avait une atmosphère de fin du monde et un moine dans une abbaye va se mettre à retranscrire toute la connaissance de son époque pour que l'homme, le survivant de cette fin du monde, ait un petit manuel, un guide de voyage finalement de la vie humaine et puis de l'âme humaine. Et ce moine va raconter tout ce que l'on doit savoir pour ne pas trop être désorienté dans sa vie, pour se guider. Alors, moi, d'une façon très égoïste, j'ai mis mon nez dans ce livre et puis je n'en suis pas ressortie parce que il faut vous dire que toutes les petites images dont vous parliez sont symboliques. Et un symbole, c'est un signe de l'invisible, c'est un signe qui doit nous aider. Par conséquent, toutes les petites images du Moyen-Âge ne sont pas simplement des beaux objets de délectation. C'est vrai, c'est beau, mais c'est pas le but. Le but, c'est de nous guérir, c'est de nous apporter quelque chose qui va nous transformer, qui va nous faire évoluer d'un état à un autre. Bien, finalement. Alors, ces petites images, elles sont merveilleuses parce que plus on les regarde et plus elle nous parle et plus elle nous aide dans des situations très concrètes de la vie quotidienne.
En fait, ce livre qui semble très très ancien vous a aidé à vivre vous-même.
Oui, parce que ce que je ne savais pas, c'est dans quel domaine je mettais mon nez, parce que en fait, quand on commence à rentrer dans ce monde symbolique, alors on s'aperçoit que le symbole, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'adapté à chaque époque de la vie, à chaque époque de l'homme, de l'humanité. Ce symbole que j'ai découvert sera valable pour quelqu'un qui vivra au 23e siècle, au 24e siècle de notre ère.
Oui, mais il n'y a que des spécialistes comme vous qui peuvent les décrypter, ces symboles. Pour la plupart des gens, ce sont des imageries un peu enfantines.
Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect naïf dans ces images qui peuvent dérouter parce qu'on se dit oh ben c'est très simple, c'est très... Mais en fait, quand on commence à rentrer dans ce langage du Moyen-Âge, on s'aperçoit que c'est une véritable langue justement qui était comprise des hommes du Moyen-Âge, puisque vous savez bien que les cathédrales, on dit que c'est des livres de pierre. Donc quand on regardait une statue ou un vitrail, on entendait ce qui était raconté. On entendait une histoire.
Oui, cette histoire-là, c'est vous qui la transcrivez, en quelque sorte, vous la traduisez. C'est vraiment très intéressant. On va revenir tout au long de notre échange sur ces symboles. Et il y en a de très beaux et très nombreux et très constructifs, très éducative, je dirais. Revenons un peu à Marion. C'est une fille qui est pleine de vie. Elle a une énergie folle, elle est très impulsive, elle est révoltée parfois. Devant cette souffrance aussi qu'elle vit, sa sœur Rose, si vous nous dites que c'est beaucoup de vous qu'elle tient, Rose, on peut le penser, vous êtes un peu démunie, comme... Alors, je ne voudrais pas individualiser le propos. Plus généralement, quand on est face à la souffrance de personnes qui nous sont proches, on ne sait pas toujours quelle position avoir. Est-ce qu'on va essayer de les aider, dire des choses, mais t'inquiète pas, ça va se passer, tu vois, c'est rien, ça va aller mieux, ou bien au contraire prendre un visage défait et dire ouais, c'est penser en soi que c'est vraiment très difficile. Et Rose, elle ne sait pas vraiment quoi faire.
Et
dans le livre, vous dites quelque chose que j'aimerais reprendre, si vous voulez bien. Ça se trouve à la page 14. Si vous avez le livre devant vous, sur la page 14, c'était « Accepter de ne pas savoir, de ne pas chercher quoi faire, justement. »
Oui.
De demeurer simplement attentive. Est-ce que vous pourriez lire les quelques lignes qui suivent ? Paradoxalement, dans cette passivité, voyez, vous êtes...
C'est ce que je m'efforçais de suivre. Ne plus chercher quoi faire, demeurer simplement attentive. Paradoxalement, dans cette passivité, moi je voulais faire ou dire, et plus je trouvais comment être. Plus je me creusais, plus je désavouais toute efficacité de ma volonté, plus ma sœur trouvait une place active. Me sachant immobile, sans jugement sur ce qui devait être, elle s'approchait. Voilà. Elle trébuche, refuse de se hâter, j'étais là. Dans ces phases de descente aux enfers ou d'amélioration, ma sœur m'entraînait dans un continent inconnu. Terre vaste, imprévisible, elle pouvait trembler, menacer, être une consolation, dévoiler ses trésors secrets. Je rencontrais ma sœur.
Vous imaginez l'univers que vous ouvrez là avec ces quelques mots. Terre vaste, imprévisible, elle pouvait trembler, menacer, mais aussi être une consolation et dévoiler ses trésors secrets. Ça, c'est quand même extraordinaire.
Oui, parce que quand on assiste à un malade, au départ, le sol se dérobe sous nos pieds parce que, effectivement, toutes les paroles de réconfort qu'on pourrait trouver, ou même « attends un peu, sois patiente », ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui, au contraire, va même provoquer parfois la colère de celui qui vit cette souffrance. Et comme c'est quelque chose qu'on ne ressent pas intérieurement, la seule façon d'aider, c'est de rester silencieux et d'être au diapason du malade. C'est la seule solution, c'est le silence et c'est l'accueil de paroles qu'il va nous dire. Effectivement, compatir quand il parle et pas avant. Ne rien devancer, ne rien chercher.
Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez en dehors et que vous avez appris finalement auprès de Marion? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience et est-ce que autour de vous les gens ont conscience de ça? C'est que la position juste, c'est d'avoir une certaine réserve, un certain silence qui est un silence accompagnant peut-être.
Un silence complètement accompagnant. Nous sommes totalement au service du malade. Et très étrangement, ça pourrait paraître un peu morbide, hein, tout ça, puisqu'il y a quand même une souffrance du corps, il y a des moments vraiment très difficiles. Et pourtant, il y a une espèce de brèche dans la maladie qui s'ouvre et qui transforme à la fois le malade et celui qui accompagne. C'est-à-dire qu'il y a une source de vie qui dépasse la maladie. Et c'est ça qu'on découvre au fur et à mesure et qui est extraordinaire lorsque l'on dépasse l'aspect émotif et le pathos lié à tout cela. Il y a une source de vie qui dépasse la maladie. Et ça, on le vit par l'expérience, au jour le jour.
Et on le vit par l'expérience, vous avez tout à fait raison, et c'est aussi quelque chose qui se révèle dans de nombreuses traditions. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais vous en citez vous-même plusieurs. Et dans ces traditions, ce qu'on pourrait dire spirituelles, les sages ne semblent jamais souffrir du mal, ni de ce dont ils souffrent eux-mêmes, ni de la souffrance des autres. Ils ont cette sorte de sourire. Là, je pense à Mathieu Ricard, là, tout d'un coup, dans sa dans sa robe où il est il peut résister à des températures de moins 30 ou moins 40 degrés dans son Himalaya et il est toujours en petite tunique là et il a ce sourire, il parle d'un tremblement de terre avec le sourire, il parle de la compassion avec le sourire. Est-ce qu'il est complètement anesthésié? Est-ce que il est inconscient? Mais c'est vrai de tous les autres sages, de peut-être même de Guillaume.
Alors, écoutez, je crois qu'il est au contraire extrêmement conscient plutôt qu'inconscient. Et c'est très mystérieux pour moi aussi, hein, parce que moi je ne pourrais pas vivre dans des températures déjà à moins 5, je suis très mal. Mais en fait, je pense que ce sont des personnes qui développent, d'ailleurs dans le cerveau, hein, scientifiquement, il y a des expériences qui sont faites, il y a un développement de quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement total du corps. Et donc, on sent moins probablement ce qui se passe au niveau physique parce qu'on est beaucoup plus dans une autre qualité d'être, mais qui m'échappe totalement.
Hein. Ah, ça vous échappe.
Je n'ai pas atteint.
J'espérais que vous nous donneriez la recette ou l'arme qui permet justement de lutter contre cette souffrance des autres qui semble ne pas les toucher. Mais j'imagine qu'ils peuvent aussi souffrir, mais de façon plus discrète.
Alors moi, je pense qu'il y a une souffrance des saints. Par exemple, on a des lettres de Bernard de Clairvaux, qui était normalement un saint, hein, qui avait des capacités physiques extraordinaires. Il pouvait jeûner pendant des jours sans rien ressentir. Et il avait une prescience des choses. Et pourtant, quand sa sœur meurt, il a une lettre très émouvante où il dit « Je sens absolument toute la souffrance. C'est intolérable. » Mais ce qui différencie les saints peut-être d'une autre personne, c'est qu'ils ont la capacité, après avoir la souffrance, puisque nous sommes incarnés, nous sommes quand même dans un corps, nous sommes dans une émotion, nous avons une âme avec des sentiments, c'est de dépasser cette souffrance et de considérer qu'il y a de plus grand que cette souffrance et qui est de l'ordre de la vie et qui est de l'ordre du divin. Et c'est là où ils vont se ressourcer. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que en se ressourçant dans ce divin, cet invisible, alors ils dépassent leur souffrance. Et on a envie de les suivre.
Bon, on va continuer cette conversation passionnante et voir en quoi justement on peut être à la fois dans le divin et hors du divin pour certains, parce que Marion, elle n'est pas tellement dans le divin, elle le fait savoir à sa sœur.
Oui.
Prendre un tout petit instant musical et vous nous avez proposé d'écouter le Nocturne L91 de Claude Debussy avec le Nouvel Orchestre Philharmonique sous la direction de Pierre Boulez. Vous êtes bien sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy et nous sommes en compagnie ce soir de Paul Amblard, historienne de l'art médiéval, qui nous parle à la fois d'une expérience vécue par une jeune femme atteinte d'un cancer et d'un voyage initiatique dans le monde des âmes après la mort, raconté par Guillaume de Digulville. Paul Amblard, à qui s'adressait ce livre, Le pèlerinage de l'âme, et en quoi est-il important, et que vous raconte-t-il précisément pour vous et pour ceux qui auront la chance de découvrir au travers de votre livre, La chambre de l'âme, cette initiation?
Ben, écoutez, vous n'avez pas envie de savoir ce qui nous attend. Moi, j'ai très envie de savoir ce qui m'attend. D'ailleurs, c'est un voyage tout à fait extraordinaire et pas du tout repoussant. Hein. Les images désastreuses qu'on a véhiculées sur l'au-delà sont ou même lénifiantes, hein, parce que le paradis, ça peut paraître des fois un petit peu tiède. Mais non, ce qui nous attend, c'est un périple très personnel d'ailleurs, selon chaque âme, qui va découvrir progressivement, qui va aller de clarté en clarté et qui va découvrir ce que le ciel recèle. Et c'est vrai que c'est très vaste, c'est un vaste continent et qui nous attend. Et à qui s'adresse ce livre? Il s'adresse à tout le monde. Et c'est sûr qu'un livre au Moyen-Âge n'est pas à disposition du plus grand nombre, puisque le livre, c'est un trésor. C'est vraiment à l'image d'une pierre précieuse qu'on garde précieusement. Alors, il y a les rois qui peuvent posséder des livres, et puis il y a les grands monastères. Évidemment, le grand public n'a pas accès aux livres. Et pourtant, l'histoire de Guillaume de Digulville, racontée par Guillaume de Digulville, donc qui est le moine, qui nous raconte ce qui se passe sur ce voyage de l'âme, eh bien, elle est destinée à tout le monde. Et d'ailleurs, on jouait cette histoire, on la jouait sur les places publiques, on la lisait à haute voix, parce que à l'époque, on lisait à haute voix un livre, et les gens connaissaient cette histoire. Et elle était là, d'ailleurs, pour l'humanité, puisque le moine, en fait, dans son histoire, reçoit un songe. Et un songe, c'est un message qui est destiné aux hommes. Et il a pour mission d'écrire cette histoire pour l'être. Donc, en fait, cette chambre de l'âme, ou ce voyage de l'âme, est destiné à tout le monde.
Alors, vous rangez ce livre, Le pèlerinage de l'âme, donc de Guillaume de Digulville, qui date d'environ 1370. On est environ 150 ans avant Jeanne d'Arc. C'est étonnant parce qu'on est on est vraiment dans une autre histoire. C'est ancienne. Hein. C'est pas le très haut Moyen Âge, mais c'est quand même bien avant toutes les grandes découvertes. Alors vous rangez ce livre, Le pèlerinage de l'âme, parmi les autres livres de la tradition encore plus ancienne, puisque vous parlez du livre des morts tibétain et égyptien, le livre des morts égyptien et le livre des morts tibétain. Est-ce que le pèlerinage de l'âme est uniquement, et avec le recul vous allez nous répondre, adressé aux chrétiens? Ou bien est-ce qu'il a, comme ces livres, le grand livre des morts égyptiens ou tibétains, ont quelque chose d'un peu universel?
Alors, c'est un manuscrit chrétien, mais pour moi, il dépasse tellement le fait religieux. Évidemment, ça présuppose une survie après la mort. Alors, c'est vraiment le domaine des religions, hein, en général. Mais Je pense qu'il s'adresse à tout le monde, parce que il y a beaucoup de peur par rapport à notre finitude. Il y a beaucoup aussi de fuite par rapport à cette question, qui est pourtant essentielle, parce que si on commence à se dire, ben voilà, j'ai mon temps de vie, il est limité, ici, qu'est-ce que j'en fais? Alors, voilà, il y a toute cette question sur qui sommes-nous, qui arrive. Et c'est des questions fondamentales, et parfois, on arrive à la fin de sa vie, et on se dit, avec des regrets, oh, j'aurais dû regarder ça. J'aurais peut-être mieux fait de faire ça de telle façon. Et tous ces regrets naissent d'un non-questionnement, d'une non-conscience sur les choses. Et donc, en fait, ce manuscrit de l'âme nous permet de s'interroger sur notre essence, sur ce que l'on est et sur ce qui est important, sur l'essentiel et qui n'est pas de fuir.
Effectivement, c'est une sorte de conseil permanent à faire attention à soi, à essayer d'aborder ce que l'on est avec une humilité essentielle. Enfin, c'est la qualité la plus grande, je crois, qui est manifestée par Guillaume de Digulville. Alors, le pèlerin qui voyage là avec son âme dans le monde des morts, c'est un voyage, vous l'avez dit d'ailleurs, qui ressemble à un rêve. Et il, quand il le raconte, il ne sait d'ailleurs pas lui-même s'il rêve ou s'il est réellement mort. Est-ce que, selon vous, et dans la symbolique médiévale, est-ce qu'il y a une sorte de parenté entre le sommeil et la mort?
Vous savez, William Shakespeare dit que peut-être toute notre vie est un rêve. Alors, qu'est-ce qui nous dit que ce que nous vivons là n'est pas un rêve, n'est pas un songe? Et au Moyen Âge, on pense que le rêve est un autre espace de vie qui n'est pas terrestre, mais qui nous met en contact du ciel. Et donc, tout ce que l'on fait pendant la nuit comme rêve, comme songe, sont comme si on passait dans cet espace invisible et qu'on faisait un petit voyage nocturne pour revenir après dans notre corps. Et donc, c'est très important au Moyen Âge de rêver et de recevoir des songes. Parce que, d'ailleurs, on va chercher la personne qui peut interpréter nos rêves. Hein. Vous savez, des fois, on se réveille en se disant « Mais j'ai fait un rêve étonnant, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous habite toute la journée. » Et bien, quand ça vous habite toute la journée, au Moyen Âge, on pense que c'est un songe, que c'est un message qui vous est apporté de l'au-delà. Et si vous savez interpréter le rêve, si vous savez le laisser infuser, si vous y pensez comme une méditation, alors peut-être que vous aurez la clé du songe, et cette clé du songe est un enseignement qui vous aide dans la vie. Voilà ce qu'on pense au Moyen Âge,
mais je suis pas loin de Freud a très très bien analysé ses propres rêves et a fait une théorie et une méthodologie pour essayer de comprendre son rêve, ses rêves en général.
Bien sûr.
Avec vous parliez tout à l'heure de la vie et lui il donne un autre mot, c'est le mot de désir. Peut-être que c'est au fond un peu la même chose.
Rêver et désirer.
Vivre et désirer ou.
Vivre et désirer. Oui, parce qu'il faut. Il y a des envies, il y a des attirances. La vie, c'est une attirance, c'est un mouvement. On n'est pas statique. Si on est statique, c'est qu'il y a quelque chose de mort. C'est un mouvement. Un mouvement avec une stabilité. C'est ça la difficulté de notre incarnation, c'est qu'on doit être stable, on doit être à l'exemple de Mathieu Ricard, hein, que vous citiez tout à l'heure, quelqu'un qui peut supporter beaucoup de choses d'une façon paisible, mais il est aussi en mouvement. Il sait que la vie est mouvement et il suit le mouvement de la vie.
Oui, mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, alors la problématique du corps et de l'âme se pose, et comme dans la plupart des traditions d'ailleurs, dans l'histoire du pèlerin de Guillaume de Digulville, le corps et l'âme se séparent. Et alors, il pose cette question, mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que on peut regarder son corps devenir complètement inerte? Est-ce que lui-même, est-ce que Guillaume sait? Et est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'il en est de cette séparation entre le corps qui est là, cette enveloppe là, il dit un peu pourrissante, faut bien le dire, et l'âme qui s'en échappe.
Alors je vais faire référence à la première image du livre. L'âme, elle quitte son corps. Alors c'est la première chose qu'il découvre, c'est qu'il n'est pas ce corps, qu'il est au-delà de ce corps. Et c'est une petite âme qui a l'aspect d'ailleurs d'un enfant. Et ça fait référence, alors souvent, on ne sait pas comment représenter l'âme. Dans les différentes traditions, on a souvent un petit personnage. Et dans le manuscrit du moine, c'est comme un petit enfant qui est nu et qui se retrouve au-dessus de son corps.
C'est d'ailleurs la couverture du livre.
Oui, et il constate que tout de suite, il y a une clarté à côté de lui, qui est un ange, son ange gardien, qui est là pour le guider dans la mort. C'est vraiment son guide dans tout ce périple. Et puis aussi, il constate qu'il y a quelque chose derrière lui. Et là, c'est une ombre. Alors, c'est un petit démon. Mais en fait, c'est symbolique, cette image. L'ange représente sa clarté. C'est ce qui va le guider. Et le petit démon représente tout ce qu'il traîne de sa vie terrestre, sa conscience qui est un peu lourde, sa désorientation dans la vie, ses mauvaises actions, en gros. Et ça, il le traîne avec lui. Et ce qu'il constate, la première chose qu'il constate, que cette âme constate après la mort, c'est qu'elle est chargée du poids de ses actions dans la vie. Et c'est ce que disent d'ailleurs les bouddhistes, hein, exactement de la même manière, c'est qu'il y a un karma qui est chargé des actions terrestres que l'on entraîne avec soi dans la mort.
Très bien. Vous nous emmenez des deux côtés de la vie, du côté du corps et du côté de l'âme, mais nous ne sommes pas, et ce petit enfant ou le petit enfant qui est en chacun de nous ne se limite pas à cette enveloppe, et peut-être que c'est ce message que Guillaume assure aux êtres humains. On va écouter un autre petit personnage. Je sais pas, vous avez choisi de nous faire entendre Alexandre Tarot dans Over the Moon, qui est une adaptation pour le piano de la musique de E.T. Pourquoi ce choix?
Over the Moon, c'est vraiment on voyage ailleurs. E.T. c'est un extraterrestre. Bon, il y a un côté extraterrestre dans ce voyage de l'âme, je trouve. Puis il y a quelque chose d'extrêmement d'espérance dans cette musique et de très avec un envol. Et je trouvais que c'était très adapté.
En effet, très belle version d'Alexandre Tarot au piano, Over the Moon. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Vous êtes toujours sur IDFM dans notre émission Entre chiens et loups avec Claude Lévy. Et ce soir, nous avons une guide passionnante qui, par ses recherches sur les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, nous conduit dans le secret de la vie de l'âme après la mort. Alors, Marion, bien que malade, quelquefois angoissée et souvent en rogne, mais avec beaucoup d'humour et une grande légèreté. On a envie vraiment de la connaître de près. Il se trouve qu'elle ne partage pas les croyances de sa sœur, Rose. Et elle ne pense pas que le destin de l'âme soit pesable. Hein. Et elle se moque d'elle et elle se moque aussi du pèlerin, surtout quand il s'agit justement de peser les âmes. Alors, on peut se demander si ces récits ce récit du pèlerin sont pas un peu des moyens pour les autres de s'assurer de l'obéissance. Est-ce que ce sont pas des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur les faire tenir tranquilles, je dirais, leur insuffler l'idée de patience?
De patience dans cette vie. Alors oui, on peut le penser. Mais on peut aussi penser autre chose.
Ah, que, voilà. Justement. C'est pas que des leçons de morale, c'est pas des
oui,
leçons.
Oui, alors personne ne peut assurer qu'il y a une vie après la mort. Personne. Mais qui peut assurer qu'il n'y a pas de vie après la mort? Voilà, je vous retourne la question. Et du coup, ben faire ce pari-là, c'est peut-être beaucoup plus, c'est finalement aider à notre vie d'ici, et c'est et plus on développe cette conscience-là, alors plus et c'est pas une méthode couée, plus il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est au-delà de nous et qui n'est pas alors c'est pas intellectuel ce que je vous raconte, c'est quelque chose qui se ressent. Et qui appartient à chacun, c'est un jardin privé un peu. Mais vous voyez, quand on est au contact de quelqu'un de non-croyant, comme Marion l'est, eh bien, on peut faire un voyage de l'âme. Et c'est tout le pari de ce livre aussi, c'est qu'en fait, Marion, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui ne pense pas au lendemain. Qui est une publicitaire, qui adore la vie, et puis qui se retrouve dans cette chambre d'hôpital où elle est enfermée, où elle se sent en prison. Et de cette prison, eh bien, elle va vouloir sortir. Et ce voyage de l'âme va l'aider à sortir. Donc, en fait, elle se rebelle, c'est vrai, mais aussi progressivement, eh bien, elle suit l'âme qui voyage et elle fait le voyage également.
Oui.
Et elle se rend compte qu'il y a des questions qu'elle ne s'est jamais posées et qui peuvent l'aider dans sa vie quotidienne, sa vie ordinaire, j'allais vous dire, mais la vie ordinaire de chacun.
En effet, elle est. Elle n'est plus du tout, au fur et à mesure de l'avancée du livre et de cette lecture quotidienne, puisque Rose vient lui lire le texte du pèlerin et de Guillaume tous les jours, tous les après-midi, et elle est impatiente de connaître la suite. Elle a envie aussi de savoir ce qui va advenir de son âme. Et elle se montre de plus en plus ouverte à la transformation, l'idée de transformation et à la réflexion sur la croyance. Et au fond, elle, ce n'est pas l'essentiel, ni pour elle, ni pour vous. La croyance en soi n'est pas un préalable, je dirais, à ce voyage.
Non, non, voilà. C'est exactement ça. On n'est pas obligé de croire. Il n'y a pas de morale là-dedans, du bien ou du mal. Il y a quelque chose de l'ordre du voyage, justement, du voyage terrestre, qui se fait pas à pas, de découverte en découverte. C'est une recherche.
C'est une recherche.
Et cette recherche peut vous amener à des clartés que vous ne soupçonniez pas. Et puis aussi à certains obstacles, mais qui sont surmontables, parce que la vie n'est pas toujours facile, on le sait. Mais il y a des moyens de dépasser ce qui nous semble comme injuste, ce qui nous semble comme en faisant des propositions de vie.
Oui, mais par des transformations. Je crois que l'idée de transformation, c'est justement toute l'idée du cheminement qui est manifeste dans la vision que Guillaume donne de ce voyage, qui est aussi un voyage terrestre. Parce qu'il y a dans la vie humaine des choses très négatives, et vous les citez, vous parlez des lâchetés auxquelles on peut s'adonner parfois, de l'orgueil, et puis des blessures narcissiques. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça dans la vie, Paul Amblard ?
Pas à pas, en prenant conscience, c'est encore une fois un travail d'attention à nos mouvements de l'âme et du corps, nos gestes, nos paroles. C'est un travail de conscience. Et plus on développe cette conscience, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que c'est mille fois on va tomber, mais mille fois on peut se relever. Et progressivement, pas à pas, grain de sable après grain de sable, eh bien, on arrive à s'améliorer un peu. Vous savez, on dit dans la Bible, il y a des paraboles qui nous expliquent que sur Terre, il faut faire prospérer ce qui nous a été donné. Et le faire prospérer, c'est ce travail de conscience. On n'est pas destiné à être des héros, des super-héros. On est destiné à devenir un peu plus que ce qu'on a amené avec nous. Et voilà ce que nous raconte le moine. C'est qu'on peut, pas à pas, s'améliorer en compagnie des autres et par le regard des autres aussi, parce que c'est un très bon miroir de notre action et de nos paroles.
Une question qui n'est pas simple, et elle ne cherche pas à vous mettre ou à mettre le message de Guillaume en difficulté, mais devant beaucoup d'injustices, et la maladie est une loterie terrible, la maladie grave, est-ce que ça peut servir à quelque chose ? C'est un peu grossier ce que je dis là, mais je voudrais vous citer deux lignes. On connaît les plongées subites des malades dans de grandes souffrances, mais aussi leur renaissance. Rien n'est jamais certain. C'est tout le chemin d'humilité auquel nous oblige la maladie. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est ce chemin, et si c'était un chemin plus facile à parcourir au Moyen-Âge qu'aujourd'hui ?
Vous savez, il y a dans un monastère, j'avais rencontré une religieuse, elle était à Jérusalem, et elle m'avait dit, dans la vie, on avance à la lueur de la bougie. C'est-à-dire qu'on ne va pas éclairer ce qui arrive, parce que ça nous fait souffrir, parce que projeter sur l'avenir nous fait souffrir. Si devant quelqu'un de malade, on se lamente en se disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous attend à part la mort ou plus de souffrance ? Alors, on souffre doublement. Mais si on avance à la lueur de la bougie, alors chaque jour devient une expérience. Et on se rend compte qu'il y a effectivement des descentes dans la souffrance, mais il y a aussi des petites victoires. Mettre un pied par terre, pouvoir boire quelque chose, pouvoir manger. Et ça devient des éléments de vie extraordinaires. C'est-à-dire que cette épreuve peut devenir une expérience sans mettre du bien ou du mal sur ce que l'on est en train de vivre.
Une notion fondamentale que vous donnez dans ce livre, c'est la notion de projection. Et ça, je crois que on n'imagine pas quel est l'aspect néfaste des projections qu'on a sur les choses et sur les gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long du livre. C'est ça qui fait souffrir, c'est la projection qu'on met sur les choses.
Bien sûr, et ça va tellement vite, le cerveau est tellement rapide. En une fraction de seconde, on a déjà émis un jugement, on sait déjà où on va, alors qu'on ne fait rien. Et ce travail d'humilité, est très dynamisant en fait, parce que ne rien savoir, c'est une ouverture sur les choses, même celles qui nous paraissent désastreuses au départ, elles peuvent devenir extraordinaires. Et c'est ce qu'on peut vivre en étant malade, c'est ce que Marion a vécu.
Effectivement, nous allons écouter un tout petit peu de musique. C'est encore un de vos choix musicaux. Vous avez choisi une musique un peu assez grandiloquente, je dirais. C'est le premier concerto de Tchaïkovski sous la direction de Claudio Abbado avec Martha Argerich au piano. Quelques secondes de ce premier mouvement et nous reprenons sur les symboles pour nous éclairer. Voilà, toujours sur IDFM Radio dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy ce soir et Paul Amblard avec qui nous avançons sur le chemin initiatique, celui des âmes après la mort, selon son maître, je mets des guillemets à maître, Guillaume de Digueville. Il aurait fallu qu'on puisse aborder la symbolique des peintures et de tous les symboles qui sont dans ces enluminures. On n'aura malheureusement pas trop le temps. Peut-être deux mots sur les deux ânes, qui est une enluminure très très belle, je trouve.
Alors c'est une drôle d'image. On voit le guide de la petite âme, qui est l'ange, qui mène cette âme devant un cercueil.
Un
cercueil.
Oui, un cercueil.
Et devant le cercueil, on voit, qui est ouvert, on voit des ânes. Au lieu d'avoir des corps dans ce cercueil, il y a des ânes. Et l'âme s'interroge. Elle demande à l'ange, mais pourquoi ces ânes sont dans des cercueils? Et on apprend que le corps est un âne. Alors ça, c'est hérité de beaucoup de Saint Bernard et de tout l'ordre cistercien qui considérait le corps comme un âne. Et en fait, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais c'est pas si idiot. En fait, l'âne, c'est quelque chose qui va nous porter toute la vie, qui est des fois un peu rebelle, hein. Il y a des ânes qui n'avancent pas toujours, qui ne veulent pas avancer. Et en fait, le corps, c'est cette peau, cet animal qu'on va devoir conduire et qui correspond à notre corps. Et en fait, on différencie encore une fois le corps et l'âme. Notre corps, c'est comme un âne qui va que l'on doit guider en fait dans la vie. Et nous sommes différents de cette peau. Vous savez, c'est comme le conte de peau d'âne. Elle demande d'être couverte de cette peau d'âne. Et puis, quand elle apparaît au prince, elle est dans sa robe couleur de soleil. Voilà, c'est toute la différence entre la peau, le corps et l'âme qui représente la robe couleur de soleil.
Oui, merci Paul. J'aimerais, avant de terminer, que vous nous lisiez quelques vers de Ernest Hanley que Nelson Mandela se répétait inlassablement lorsqu'il était en prison, rappelant qu'il n'a vécu que 28 ans en prison. Incroyable. Ces quatre vers, j'aimerais que vous nous les disiez.
Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
Voilà, le sens des responsabilités. On est maître de son propre destin, quoi qu'il en soit. Voilà, nous n'avons parcouru malheureusement qu'une partie du chemin vers l'éternité, mais on ne va pas se quitter sans vous demander, Paul, comment se porte Marion ?
Marion va très bien. Je crois qu'elle garde de cette traversée de maladie, finalement, étrangement, un excellent souvenir parce que ça a été un voyage extraordinaire et une rencontre entre deux sœurs.
Et qu'on va retrouver donc dans ce très beau livre, vraiment d'une richesse inépuisable, La Chambre de l'âme aux éditions Salvator, sous la signature à la fois de Guillaume de Digulville et de Paul Amblard. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir accompagnés sur ce chemin.
Merci à vous.
Merci à Francky qui a réalisé cette émission que vous pourrez réécouter en podcast où que vous soyez, en France, à Paris, à Rome ou à Jérusalem. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une rediffusion d'une émission Entre chiens et loups consacrée à la fin de l'URSS. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur IDFM Radio. Il est bientôt 19h et c'est tout de suite Lus au Mundo.
De France.
Écoutez IDFM
sur 98 FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.